Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Louis Drillon, Cédric Fuentes et Julien Rosa. À la réalisation Marie Placé, prise de son Morgane Danan.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Besserie.
Troisième jour de notre série sur les fruits du capitalisme. Après avoir enquêté sur la banane et la tomate, nous nous lançons sur les traces d'une huile dont le succès commercial est à la hauteur des controverses éthiques et écologiques qu'elle nourrit, l'huile de palme. Omniprésent dans l'alimentation industrielle, dans les cosmétiques et désormais dans les carburants, l'huile de palme est le symbole d'un système de production effréné qui, pour augmenter ses profits, n'hésite pas à mettre en péril les forêts primaires et les modes de vie de ses habitants. Triste tropique dont l'histoire économique se joue aussi en Occident, où la demande d'huile magique explose. Le documentaire d'Émilie Lançon, Palme, une huile qui fait tache, suit pas à pas les acteurs et la filière complexe d'un système régulièrement au cœur des débats politiques. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de l'empreinte écologique et économique de l'huile de palme en compagnie d'Émilie Lançon, journaliste et réalisatrice du documentaire Palme, une huile qui fait tache, produit par Magnéto Presse et diffusé sur France 5. Également avec nous, Emmanuel Grundmann, primatologue, biologiste et auteur d'un fléau si rentable, Vérité et mensonge sur l'huile de palme aux éditions Kalman-Lévy. À 14h50, vous retrouverez les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade. Émilie Lançon et Emmanuel Grundmann, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Grundmann, quand on dit dans ce documentaire d'Émilie Lançon, que vous avez vu vous aussi, que finalement ce serait presque un produit sur deux dans un supermarché qui contiendrait de l'huile de palme, sous des formes d'ailleurs plus ou moins avouées ou dissimulées, alors est-ce que c'est vrai ?
Tout à fait, c'est vrai que ça paraît complètement faramineux. Et il s'avère que l'huile de palme se niche absolument partout et sous divers composants. Alors dans sa forme plus, dans sa forme quasiment intégrale, dans beaucoup de produits alimentaires, ensuite aussi dans beaucoup de cosmétiques, mais aussi dans des peintures, des détergents et tout un tas de choses avec des abréviations et des appellations qui font qu'elle est souvent assez difficile à pister sur les étiquettes.
Alors Émilie Lançon, on a vu que pour les produits tels que la banane ou la tomate dont on a pu parler cette semaine, il y avait souvent une mythologie autour de ces fruits, une mythologie originaire. Alors la mythologie de l'huile de palme, elle est plutôt en Asie où elle apparaît comme une sorte d'huile magique.
Oui, alors ici on la connaît quand même moins parce qu'en Asie on l'utilise dans la cuisine de tous les jours. C'est notre huile d'olive ou notre huile de colza, notre huile de tournesol. Et en plus là-bas, elle fait vivre énormément de monde. En Indonésie, il y a 20 millions de personnes qui vivent de manière plus ou moins directe de l'huile de palme, au point qu'on l'appelle l'or rouge de l'Indonésie. Donc après, on lui attribue pas particulièrement des vertus magiques, mais c'est une huile qui fait partie du quotidien des gens, ce qui n'est pas le cas ici, parce que nous, elle nous arrive dans des produits industriels, donc de manière finalement assez dissimulée, et beaucoup de gens n'ont pas conscience qu'ils consomment de l'huile de palme, aussi bien quand ils se nourrissent, qu'ils achètent au supermarché du pain ou des chips, enfin on peut citer mille et une choses, beaucoup dans la biscuiterie aussi par exemple, mais aussi, comme vient de le dire Emmanuel, parfois dans les cosmétiques et même dans les biocarburants.
Alors Emmanuel Grundmann, on voit que les grandes vertus de cette huile magique, c'est surtout des vertus économiques. Alors on va essayer de comprendre pourquoi, il faut retracer l'histoire. Les racines, ça serait au début du XXe siècle, Henri Fauconnier, un Français.
Alors en fait, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est une huile qui est vraiment originaire de l'Asie du Sud-Est, mais en réalité, son berceau, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc le palmier et l'aïs guinéensis, comme son nom latin l'indique, c'est difficile, est plutôt originaire de la zone guinéenne. Et l'huile de palme est utilisée là-bas de manière traditionnelle depuis très très longtemps. Et alors les Européens l'ont découvert à peu près au XVIe siècle. Et au début, en fait, ils l'utilisaient dans le commerce triangulaire. Ils prenaient des régimes de fruits. Comme les fruits sont très riches aussi en vitamines, en caroténoïdes, ça permettait de nourrir les esclaves sur les bateaux. Ça se conserve très bien.
Donc les vertus sont réelles, en tout cas les vertus du fruit.
pour le
tomber
coup,
de l'arbre.
Tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est, on va dire, la première utilisation par les Européens avérée, ou en tout cas de grande ampleur. Et ensuite, il faut attendre plutôt le 19e et la révolution industrielle, et en particulier en Angleterre, avec un certain William Lever, qui a inventé ou qui a réinventé le savon dans la savonnerie héritée de son père. Il a fait ce qui s'est appelé le Sunlight Soap, avec en fait des petits pavés emballés individuellement, le savon tel qu'on le connaît aujourd'hui, et il a remplacé en fait la graisse animale par de l'huile de palme. Ça a eu un tel succès, puisqu'il y avait un besoin de se laver de plus en plus grand par cette suie qui était de plus en plus importante, qu'il a cherché un nouvel approvisionnement. Les palmiers, on va dire sauvages, qui étaient disséminés dans la forêt, ne suffisaient plus à aux importations, à sa demande. Il a commencé à chercher des terres pour installer des exploitations, des palmeraies. Il a commencé en Afrique, mais les problèmes politiques l'ont un peu rebuté et il s'est tourné vers l'Asie du Sud-Est, en particulier la Malaisie, l'Indonésie. Et les premiers plants de palmiers sont arrivés tout à la fin du 19e. Alors d'abord,
donc l'idée a été d'implanter, en réalité, voilà, d'importer ces graines d'Afrique.
Exactement.
Pour les planter en Indonésie notamment. Et l'Indonésie, on apprend dans votre documentaire, Émilie Lançon, que c'est le vivier principal, alors justement, de la plantation, des vastes plantations. On va entendre un extrait de votre documentaire.
L'Indonésie est le premier producteur mondial d'huile de palme. À elle seule, elle assure la moitié de l'approvisionnement de la planète. Nous sommes sur une petite plantation indépendante. Mahariadi est gardien de 4000 palmiers. Leurs fruits sont d'un rouge orangé éclatant. Ici, on parle d'ailleurs d'or rouge de l'Indonésie.
Je regarde les fruits pour savoir s'ils sont mûrs.
Les fruits sont cueillis à l'aide de longues perches équipées d'une lame tranchante. Ils poussent en énormes grappes d'une quinzaine de kilos.
Pour des arbres comme ça, on récolte les fruits une fois par semaine.
Toutes les semaines, les ouvriers travaillent sur différentes parcelles. Les palmiers donnent des fruits tous les 15 jours, 12 mois sur 12. Ce sont les arbres les plus rentables au monde.
Voici les fruits du palmier qui permettent de produire de l'huile. C'est très bon à manger. Le noyau est tout petit. C'est la chair qui donne de l'huile. Regardez, quand on presse, il y a de l'huile qui sort.
La chair donne de l'huile de palme. Le noyau, une fois pressé, de l'huile de palmiste, une sorte de concentré d'huile de palme, surtout utilisée dans les cosmétiques.
Alors on entend justement dans l'extrait de votre documentaire Palme et huile qui fait tache qu'il y a eu d'un côté alors ces pionniers entrepreneurs dont vous évoquez aussi les noms, hein, comme celui d'Henri Fauconnier, qui sont allés implanter ces graines et les planter en Asie du Sud-Est. Et puis l'Indonésie est devenue le territoire avec la Malaisie où se passe 85% de la production mondiale.
Oui, parce qu'en fait là-bas ça pousse très bien, ça s'est développé de manière complètement spectaculaire et l'Indonésie a compris qu'il y avait un filon, donc ils se sont mis à en planter, puis quand il n'y a plus assez de terre, on va sans doute en parler tout à l'heure, ils se sont mis à déforester. Alors ici on ne sait pas ce que c'est vraiment l'huile de palme parce qu'on l'utilise assez peu, on ne connaît pas le fruit, je l'explique dans le documentaire, ça ressemble à des petites noix en fait qui sont agglomérées les unes aux autres.
En grappe,
en grappe, voilà, c'est comme un régime de banane et il faut s'imaginer que pour le cueillir, c'est pas simple parce que c'est pas industrialisé cette cueillette. Donc on voit partout, il y a des ouvriers qui sont avec ces grandes perches et ils tapent et puis ils scient en fait les régimes. Et un régime ça pèse très lourd, c'est 15 à 25 kilos. Donc c'est vraiment une cueillette extrêmement physique qui demande beaucoup de main d'œuvre. C'est aussi pour ça tout à l'heure je disais il y a 20 millions de personnes qui vivent de l'huile de palme en Indonésie. Mais je sais pas combien il y a de cueilleurs, mais il y en a certainement énormément.
Et c'est une cueillette qui se fait manuellement.
Ça se fait manuellement.
Qui ne peut se faire que manuellement.
Oui, à ma connaissance, on ne peut pas l'industrialiser.
C'est d'ailleurs un des avantages parce que du coup, comme la main-d'œuvre peut être très peu payée, ça revient moins cher que d'avoir une tout un système de machines, ce qui permet aussi d'avoir une marge bénéficiaire d'autant plus importante à partir du moment en plus où on bafoue un petit peu le droit du travail, comme c'est souvent le cas. Et du coup, c'est une des raisons aussi qui fait, en plus de la très forte productivité, que c'est une huile absolument, enfin, ou un palmier très très rentable.
Alors on disait tout à l'heure que l'huile de palme, sa première vertu, c'est d'avoir des vertus économiques. Alors les vertus économiques, c'est quoi ? C'est qu'on dit que c'est un arbre extrêmement productif ?
C'est très productif. Alors on peut aller jusqu'à, je crois, 40 tonnes à l'hectare, si je me trompe pas, 40 tonnes de régime à l'hectare, et on arrive entre la moyenne, c'est 4 tonnes à l'hectare de production d'huile de palme, en sachant que le soja, c'est un petit peu moins d'une tonne à l'hectare. Et donc du coup, oui, on a une rentabilité qui est parmi les plus fortes, enfin qui est la plus forte chez les huiles végétales. Donc c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, on pourrait aussi, alors là c'est l'argument, retourner cet argument et dire que ça peut aussi être un argument écologiquement très intéressant, puisque la productivité est importante. À partir du moment où on cultiverait ce palmier sur des zones agricoles dégradées, abandonnées, qui existent déjà, et non pas déforestées, ça pourrait être une huile qui pourrait être très intéressante pour l'économie mondiale, et écologiquement aussi.
Alors, donc les palmiers sont effectivement plutôt faciles à faire produire, et d'un autre côté, il y a la question effectivement de tout ce trajet mondial qui va être fait entre la production et la consommation. Ce marché énorme que l'on décrit, que vous décrivez, Émilie Lançon, dans votre documentaire, c'est un marché essentiellement occidental, et c'est le marché des grandes industries qui l'emploient pour des produits dérivés. L'huile est rarement consommée brute en Occident.
Oui, en fait, c'est un ingrédient quasiment... Alors là, vous parliez de magie tout à l'heure, mais là, c'est vraiment pratiquement magique pour les industriels, notamment pour tous ceux qui font des biscuits, des viennoiseries, ce genre de choses. Alors, elle a plusieurs avantages. D'abord, elle se présente à température ambiante. Dans nos contrées, elle est semi-solide. Donc, ça veut dire qu'elle est extrêmement facile à stocker. C'est un peu comme de la margarine ou du beurre, sauf que contrairement au beurre, par exemple, elle se conserve très longtemps. On peut la conserver sans problème au moins un an. Elle ne va pas bouger, elle ne va pas rancir, elle ne va pas avoir un mauvais goût. Et d'ailleurs, bon, comme on la traite, elle n'a pas de goût. Ça, c'est aussi un autre avantage pour un industriel. Le beurre, quand on le met dans un biscuit, ça va donner au biscuit un goût de beurre. Ça peut être délicieux, mais on ne va pas chercher dans tous les types de biscuits à avoir un goût de beurre. Or là, elle n'a pas de goût. Et en plus, elle donne, en fait, c'est un liant, c'est du gras pas cher, et elle donne du croustillant, du moelleux, et elle permet au biscuit de se garder. Vous avez certainement fait l'expérience, vous vous êtes jamais dit, tiens, c'est fou, cette marque de biscuit-là, je peux la garder 6 mois, ils sont toujours aussi croustillants, alors que d'autres, au bout de 3 jours, même on a beau les mettre dans une vieille boîte en fer, maintenant ça marche plus, ils deviennent tout mous. Bon. Et ça, c'est grâce à l'huile de palme.
Alors, Émilie Lançon, qu'est-ce qu'on peut dire de cette demande, de ce grand marché mondial occidental et industriel ? On a vu que, justement, c'est un marché qui avait explosé, dont la demande avait explosé ces dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé ? Puisqu'on a vu que c'était un produit relativement ancien, que l'exploitation, justement, datait plutôt de la révolution industrielle, puis plus tard du début du XXe siècle. Alors, pourquoi est-ce que, d'un coup, la demande a explosé ?
Alors, c'est vrai que depuis, je crois que les années 2000, ça a doublé. La demande, tout simplement parce qu'en fait c'est une matière grasse géniale, pas chère, et que c'est à un moment donné c'est la course au profit. C'est plus facile de mettre de l'huile de palme que de mettre d'autres types de graisses qui sont plus compliquées à travailler, parce qu'en plus elle se mélange très très bien aussi, ça je l'ai pas dit, mais elle est facile à travailler. Donc à un moment donné, pourquoi s'en priver? Donc c'est et parce que aussi les gens achètent, je pense, cuisinent de moins en moins, parce que c'est lié aussi au fait, l'huile de palme, on la trouve dans les produits industriels. Quand on consomme chez soi, qu'on se fait vraiment ses repas, on a très peu de chances de manger de l'huile de palme, ou alors vraiment dans des quantités infinitésimales. Alors que quand on a tendance à acheter des plateaux faits, des biscuits, du pain, enfin je sais pas ce qu'on peut citer d'autre, mais il y a ouais.
Bon, là, on a dit des cosmétiques, des produits ménagers.
On tombe forcément sur l'huile de palme. Et c'est vrai que les pays consomment de plus en plus. Il y a aussi l'Asie. Et c'est la marge du monde, en fait, qui appelle à trouver des solutions. Et c'est une solution quasiment clé en main.
Alors, Emmanuel Grundmann, il y a plusieurs questions qui se posent, à savoir, l'huile de palme est un bon exemple de la confrontation entre les intérêts économiques d'un côté et des questions écologiques, mais qui vont plus loin que l'écologie. Ce sont des questions de biodiversité. Donc, pour développer ces plantations, il a fallu déforester ou cesser certaines cultures.
Oui, alors c'est essentiellement déforesté en Asie du Sud-Est et puis maintenant, alors ça a vraiment commencé en Asie du Sud-Est, la Malaisie d'abord, l'Indonésie ensuite, et puis maintenant ça s'exporte à nouveau, enfin il revient en Afrique aussi avec des conséquences tout aussi dramatiques et en Amérique centrale, Amérique du Sud. Et effectivement, en fait, ce qui revient le moins cher pour l'industriel, c'est de raser la forêt. Ça a d'autant
De la brûler d'ailleurs, puisque ouais. C'est souvent les systèmes qui sont employés.
Exactement. Quand la forêt est encore un peu intéressante, on va d'abord en extraire toutes les essences encore un peu précieuses ou semi-précieuses qu'on va vendre. Les petits arbres, on va les utiliser pour la pâte à papier, donc ça fait en fait deux bénéfices supplémentaires. Le reste, on brûle et on plante sur ces immenses surfaces qui sont brûlées. Et il y a un troisième avantage, c'est que en fait, ce sont des zones de forêt où il y a des populations qui y vivent, des populations forestières, mais elles sont nettement moins habitées que des terres agricoles dégradées. C'est-à-dire que l'industriel va être moins susceptible de devoir payer des compensations en termes de droits coutumiers aux populations qui vivent sur place. Donc en fait, il y a trois bénéfices supplémentaires quand on utilise des zones de forêt. Et quand on parle de feux de forêt, ce sont des feux de forêt mais absolument gigantesques. Les premiers qui ont vraiment fait date, ce sont ceux de 1997-98, où le palmier a vraiment eu une sorte de phase d'explosion, d'expansion absolument faramineuse. Et pendant longtemps, on a blâmé l'oscillation climatique El Niño en disant que c'était une période de grande sécheresse et que c'était certainement essentiellement les paysans en fait traditionnels qui pratiquent encore la culture sur brûlis qui avaient provoqué la plupart de ces feux de forêt. Or, la plupart des petits paysans savaient très bien que c'était une année de sécheresse intense. Ils n'ont pas du tout fait de brûlis, connaissant très bien leurs terres. Et l'analyse en fait des cartes satellites et de différentes données a montré que entre 50 et 80% des foyers étaient au sein de concessions allouées à des compagnies d'huile de palme. Et que c'était des incendies criminels pour déforester à moindre coût.
Alors Emmanuel Grunemann, comme
faut voir aussi, pardon, juste là-dessus, oui, il y a la forêt en Indonésie, la forêt primaire, la forêt secondaire qu'on peut déforester pour planter des palmiers, mais il y a aussi les tourbières. Et les tourbières sont des zones un peu marécageuses, broussailleuses, donc finalement qui sont assez faciles à utiliser, si ce n'est qu'il faut les assécher. Donc les compagnies les assèchent. Alors normalement, elles n'ont pas le droit d'y mettre le feu, mais enfin un feu est tellement vite parti. Et du coup, c'est très facile de se servir de ces zones-là. C'est beaucoup moins compliqué que d'avoir à raser des milliers, voire des millions d'arbres.
Alors en économie, on pose souvent la question des ressources. Là, on voit que ces deux questions sont totalement intriquées à la fois en termes de production, mais aussi en termes de coûts et de conséquences. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Emmanuel Grunemann, justement, de ce qui se passait dans ces forêts-là auparavant, c'est-à-dire quel mode de vie elles induisaient? On a vu dans votre documentaire, Émilie Lançon, que c'était aussi des lieux de chasse, des lieux dont on se sert aussi des essences de ces forêts. Donc, est-ce qu'on peut dire des modes de vie et de culture qui étaient faits dans ces forêts?
Alors, de manière générale, on a encore à l'échelle mondiale environ 300 millions de personnes qui vivent dans les forêts et de personnes qui dépendent des ressources forestières à l'échelle mondiale. On est à peu près à 2 milliards, je crois, ou pas loin de 2 milliards. Donc, c'est vraiment un lieu de ressources très importantes pour encore énormément de gens.
Dépendance économique, dépendance alimentaire?
Alimentaire et économique. Donc ça va être évidemment les ressources alimentaires du quotidien, mais ça va être aussi, ça génère aussi de petites économies, l'utilisation du rotin, de plantes médicinales, de différents fruits, etc. Et du coup, ces forêts sont vraiment des lieux qui abritent un potentiel pour tous ces peuples dont finalement le mode de vie part en fumée avec l'arrivée de ces grandes plantations également.
Alors écoutez un autre extrait de votre documentaire, hein, Palme, une huile qui fait tache, avec justement cette explication sur la question de la déforestation.
Produire de l'huile de palme, c'est déforester, détruire la forêt primaire. En Indonésie, toutes les minutes, l'équivalent de 6 terrains de football disparaît. Des pans entiers de forêts millénaires sont brûlés. pour laisser place à la monoculture du palmier. Privées de leur milieu naturel, certaines espèces animales comme les orangs-outans sont en voie d'extinction. À Kalimantan en 60 ans, la forêt primaire a pratiquement disparu de moitié.
Alors là, on va voir que finalement l'évaluation des coûts de l'exploitation de l'huile de palme à travers la plantation justement de palmiers est très complexe à évaluer, puisque en réalité c'est le passage de culture diversifiée à une monoculture, c'est aussi des conséquences sur le monde animal, la biodiversité générale. Emmanuel Grunemann.
Oui, et c'est vrai que alors il y a eu énormément d'études sur le sujet les chercheurs estiment que quand l'huile de palme arrive, il y a une perte de biodiversité sur une zone forestière, globalement une perte de biodiversité, une perte d'espèces animales et végétales de 70%. Et il y a un chercheur notamment en Suisse qui a comparé les différentes monocultures et l'huile de palme est de loin la plus terrible en termes de perte de biodiversité.
On parle des orangs-outans qui sont devenus les symboles justement de cette déforestation.
Alors eux sont évidemment les plus symboliques, ce sont les plus grands, ce sont des grands singes. En plus, c'est vrai que les projecteurs ont été assez rapidement braqués sur leur sort et ils servent un peu d'ambassadeurs pour toutes les autres espèces dont on parle moins, mais effectivement ce sont des milliers d'orang-outans qui chaque année pâtissent encore aujourd'hui malgré toutes les campagnes qui ont pu avoir lieu de sensibilisation et les changements qui ont été amorcés. Toujours des milliers d'orang-outans qui pâtissent de cette expansion du palmier à huile au détriment de la forêt. L'orang-outan, c'est un grand singe qui est dépendant de la forêt pour se nourrir, pour vivre. Et il se retrouve en fait sans domicile. On le voit souvent errer. Hagard, affamé dans les plantations. Souvent, il est tué, torturé dans certains cas. En général, les mères qui ont des petits sont tuées pour récupérer le petit qui est vendu comme animal de compagnie. Donc, ça fait encore un petit revenu supplémentaire, surtout pour certains ouvriers, parce que leurs revenus sont très très faibles. Et la condition, effectivement, de l'orang-outan et le futur de l'orang-outan est vraiment dramatique. Et la situation ne s'est pas amélioré. J'ai récemment rediscuté avec des collègues qui sont sur place. On est toujours sur un déclin terrifiant des populations d'orang-outans avec l'expansion du palmier à huile qui continue de plus belle.
Alors, Émilie Lançon, on voit dans votre documentaire qu'en réalité, la question de l'huile de palme se pose très très différemment en Occident et justement en Asie, avec justement des questions environnementales et sociales, ces questions étant extrêmement intriqué autour des questions des forêts, de la déforestation et de l'expropriation, on va aussi en parler, alors qu'en Occident se posent des questions plutôt sanitaires autour de l'huile de palme, des questions qui font débat et qui ne sont pas tranchées d'ailleurs.
Oui, on se pose les questions qui nous concernent directement. Et ce qui nous concerne directement,
c'est l'autre bout de la chaîne.
Directement, c'est notre santé, voilà. Ça nous concerne aussi, l'impact écologique, mais dans la tête des gens, c'est un peu plus loin, c'est pas chez nous, c'est à l'autre bout du monde, on sait pas trop. Et on s'est rendu compte, c'est notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui a tiré la sonnette d'alarme en 2010, dans un rapport en disant la phrase exacte, je crois, c'est parce qu'ils sont aussi quand même très diplomates, l'huile de palme en cas d'excès est hétérogène en cas d'excès. C'est-à-dire que si on mange trop d'huile de palme, en clair, ça va boucher nos artères et donc il y a des risques de maladies cardiovasculaires à la clé.
Alors est-ce que ça s'est tranché? Est-ce qu'on en est au stade des études? Est-ce que les choses
sont ça me semble quand même
totalement claires?
Relativement claires.
Vous acquiescez, Emmanuel Goldman, de la main?
Ce qui est assez, quand j'avais commencé à travailler sur cet aspect sanitaire, c'est celui qui m'avait donné le plus de fil à retordre, parce qu'on trouve vraiment tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Et en discutant et en allant voir des médecins, nutritionnistes, etc., il s'avère que, en fait, le problème, c'est l'excès. Et on est vraiment en excès. Alors l'huile de palme, quand on dit l'huile de palme, c'est essentiellement celle qui est issue de la pulpe et qui est dans tout ce qui est agroalimentaire et pas forcément les cosmétiques. Là, je parle vraiment de la pulpe.
Celle qui est consommée, ingérée.
Voilà. Et elle est formée à à peu près de 50% d'acide gras saturé. Et ceci, en fait, la dose recommandée par l'OMS serait de 8 à 10% de la totalité des lipides ou de l'alimentation. Et on est quasiment au double en France. Donc là, on ne parle même pas de pays comme les États-Unis où on est bien au-delà de ces chiffres. Et les chercheurs notent une recrudescence de l'obésité. On parle même au niveau de l'OMS d'épidémie d'obésité, de diabète 2 qui va de pair. Et en plus, avec un facteur pauvreté, ce sont les tranches, les populations les plus pauvres qui sont le plus impactées par ce problème, parce que l'huile de palme gorge tous les produits très bon marché de l'agroalimentaire et tout ce qui est industrie du fast-food.
Émilie Lançon, c'est une des questions épineuses que vous filez le long de votre documentaire, à savoir finalement autour de l'huile de palme et de l'ingestion de produits d'alimentation industrielle, donc tout fait, il se pose beaucoup de questions. C'est à la fois la question du temps passé à cuisiner, hein. Vous donnez cet exemple de cette mère de famille qui donne à ses enfants des produits tout faits et dont on comprend qu'il y a de l'huile de palme partout. Et puis c'est aussi la question effectivement de la culture industrielle et du coup qui mange quoi, avec une ségrégation alimentaire.
Ouais, c'est vrai. Mais on a dans nos modes de vie, surtout urbains, on n'a plus forcément le temps de cuisiner, ou on ne prend pas forcément suffisamment le temps. Et surtout, on ne se rend pas compte que dans les produits industriels, même si finalement dans certains d'entre eux, il n'y a pas tant d'huile de palme que ça, mais comme c'est l'accumulation en fait qui va poser problème. Parce que quand j'avais pris à dessein l'exemple d'un repas, alors je ne sais plus exactement ce qu'il y avait. Il y avait, je crois, des raviolis tout faits. Elle mettait un bouillon cube aussi. Il y avait un petit peu d'huile de palme dedans. Les enfants mangeaient une glace, on n'imagine pas un quart de seconde qu'il peut y avoir de l'huile de palme dans la glace, et pourtant si. Et donc tout ça, s'ils avaient juste mangé la glace ou juste les raviolis, à la limite aucun problème, mais ça plus ça plus ça, répété à 4 heures, ça commençait le matin au petit déjeuner
avec
les céréales, et ça se terminait le soir en mangeant je sais plus quoi. Donc finalement toute la journée, à leur insu, c'est aussi ça qui est très important à comprendre, parce que les gens ne savent pas qu'ils consomment de l'huile de palme. Et Emmanuel l'a un petit peu dit tout à l'heure sur les étiquettes, parfois il faut vraiment être quand même biologiste
chimiste,
ou chimiste pour savoir vraiment ce qu'on mange, parce que c'est pas écrit en gros huile de palme, enfin c'est rarement comme ça. Donc ça fait que toute la journée on en mange, ça fois 365 jours par an, fois X années, il y a un moment donné, ça pose problème.
Alors se pose la question effectivement aussi du rôle de la culture industrielle là-dedans, mais aussi du lobbying industriel. On a le sentiment qu'en réalité, à travers l'histoire de l'huile de palme, on fait le tour de la question des inégalités sociales, des questions écologiques, des questions politique.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que l'huile de palme, tout au début, était essentiellement utilisée dans des procédés industriels. Tout à l'heure, on évoquait le savon. Après, ça a été beaucoup utilisé dans l'industrie du fer blanc, dans tout ce qui était explosif aussi. Le canal du Panama, en fait, a fait exploser, sans jeu de mots, la demande en huile de palme. Et en fait, il y a eu un basculement. Ça a commencé, en fait, avec la margarine et Napoléon III qui cherchait un substitut au beurre qui était trop cher. Et en fait, je pense qu'il y a un point de basculement aussi dans les années 70 avec les États-Unis qui a signé en 76, en fait, enfin, il y a eu une rencontre entre les États-Unis et la Malaisie, et il y a eu en fait un accord d'échange. Donc les États-Unis voulaient que la Malaisie ouvre grand la porte à ses produits. Et la Malaisie, en échange, a demandé à ce que les États-Unis acceptent un flot d'huile de palme. Et donc l'huile de palme a commencé à être incorporée de plus en plus dans tout ce qui était agro-industrie, et en particulier les fast-foods, et avec en plus de tout ce qui était mélasse issue de la culture du maïs. Et on a vu la portion ou la quantité de gras et de sucre augmenter petit à petit au fil des ans à partir des années 70 aux États-Unis. Et cette agro-industrie et tous ces produits ont petit à petit aussi essaimé un peu partout à travers le monde, et avec évidemment la portion d'huile de palme qui allait avec.
Symbolisée par la taxe Nutella.
Notamment.
Ombak hebat. segara. Esok esok katon nasri temenan. Gawe seneng karo sing nyakinya bang. Prau layar prau netane nelayan. Ngawe awe lagi sergap nyambut gawe. Hasil laut pada makor uripe. Pancen subur makmur ning tanah Jawi.
Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, par Maïlys Bessery.
Wardian est d'origine Dayak, l'ethnie de Kalimantan. À 56 ans, il est en conflit avec une plantation voisine qui, selon lui, occuperait illégalement une partie de son terrain.
Mon terrain commence ici et va jusque là-bas. De ce côté-ci, il est délimité par la rivière. Il s'étend au loin, par là. C'est très important pour moi de pouvoir le donner un jour à mes enfants. Ça, c'est le seul arbre qui me reste. Car un jour, les gens de la plantation sont venus avec un bulldozer. Ils ont saccagé mon terrain et beaucoup d'autres.
C'était il y a 9 ans. Selon lui, la plantation d'à côté aurait déforesté et planté des palmiers sans le lui dire. Avant, cette terre permettait à Wardian de vivre. Ici, à la place de ces palmiers, il y avait des arbres fruitiers, des arbres à caoutchouc, et il chassait le gibier. Aujourd'hui, il a du mal à s'en sortir.
Ça m'a fait beaucoup de peine. Si un animal m'avait fait ça, je l'aurais tué. Mais là, je ne peux pas, parce que ce sont des hommes et qu'il y a des lois.
Émilie Lançon, c'était encore un extrait de votre documentaire. On voit que cette histoire de production d'huile de palme, elle nous emmène à faire des allers-retours justement entre les consommateurs occidentaux et les producteurs de l'autre côté. Alors là, on est retourné en Asie et on voit qu'en réalité, les mécanismes de ce système, c'est un système de colonisation économique en réalité et d'expropriation. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les ressorts ?
Absolument, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que le gouvernement, les autorités cèdent des parcelles de terrain à des plantations pour qu'elles puissent déforester et produire de l'huile de palme. Mais en fait, ces terres, elles appartiennent à des gens. Il y a des gens qui y vivent depuis des années, voire des siècles, et qui, de génération en génération, se transmettent des parcelles de terre, sauf qu'ils n'ont pas de titre de propriété.
Alors ça, c'est important, vous expliquez que c'est un système de loi tribale, voilà, de droit tribal. Exactement. Qui régit ces forêts, et c'est là la grande fragilité sur lesquelles jouent
les autorités et les planteurs, les grandes plantations jouent là-dessus, c'est-à-dire qu'on sait, c'est dans l'usage, on sait que telle parcelle de terre, de tel arbre à tel arbre qui va au ruisseau, elle est à un tel, et puis tel autre, elle est à tel autre, et les gens le respectent, et comme ça, cohabitent comme ça, les paysans entre eux, depuis des années. Sauf que tout d'un coup, ces terres-là, puisqu'il n'y avait pas de titres légaux enregistrés quelque part, on a fait comme si tout ça n'existait pas. On s'est dit, bah, ces terres-là, ah bah tiens, elles sont à personne. Et les plantations, enfin des gros producteurs sont venus raser des arbres qui en fait étaient cultivés par des petits paysans. Et ces gens-là, alors d'une part, ont été complètement sous le choc, et en plus, c'est extrêmement difficile pour eux, c'est vraiment la lutte du pot de terre contre le pot de fer, de se retourner contre ces géants. Et donc, alors il y a des associations sur place qui les aident. Là, en l'occurrence, moi j'ai rencontré des gens qui étaient en procès avec une grosse plantation, mais ça durait depuis des années et c'est extrêmement compliqué de faire valoir ses droits. Surtout que comment prouver que cette terre nous appartient bien, si ce n'est en disant mais oui, mon voisin tel, il va vous le dire. Mais bon. Donc tout ça est compliqué, et là-dessus, les autorités jouent plutôt le jeu des grandes plantations plutôt que celle des petits paysans locaux qui se retrouvent mis à la porte de chez eux finalement.
Alors Emmanuel Goodman, on voit que ce qui est souvent mis en avant par les gouvernements successifs, notamment indonésiens, c'est le choix entre des alternatives économiques ou écologiques, comme si les deux choses s'opposaient,
les questions
sociales sont mises en avant comme des priorités sur les questions écologiques qui en réalité, y compris d'un point de vue physique et de la vie de ces gens, sont un peu intriqués.
Complètement, oui, c'est comme si les deux ne pouvaient pas coexister. Et surtout, c'est voir la forêt comme étant quelque chose qui n'a pas de valeur sur le long terme. Et c'est vrai que ça a véritablement commencé dans les années 60 avec l'arrivée de Suharto au pouvoir, qui a véritablement bradé la forêt, la forêt et son sous-sol aux grandes entreprises, en s'en mettant au passage plein la poche aussi. Et c'est lui qui a commencé à instaurer aussi tout ce système de corruption effrénée. Et ce qui est important aussi de voir, c'est qu'en Indonésie, bon, il y a un gouvernement central, mais en fait, après, on a des provinces avec des gouverneurs qui ont souvent énormément de pouvoir. Et souvent, à la tête de certaines provinces, le gouverneur est aussi le propriétaire d'une grande plantation ou d'une raffinerie. Et sont arrivés aussi dans le jeu. Alors, bon, on a toutes les grosses agro-industries mondiales, mais on a aussi, à l'époque de Suharto, il y a eu tout un système de barons du bois, en fait une mafia autour de l'exploitation des essences précieuses, qui, les essences précieuses se raréfiant, se sont tournées vers l'huile de palme et qui sont désormais à la tête aussi de grands conglomérats indonésiens pour le coup, et qui souvent qui sont soit gouverneurs, soit pas forcément gouverneur, mais très amis. Et donc, c'est très difficile, après, de faire valoir le droit du sol quand on a en face ce genre de personnes, avec tout ce système politique très difficile, dans lequel il est très difficile de naviguer et justement de faire valoir le droit coutumier qui n'est, justement, comme on le disait, pas écrit. Et aujourd'hui, le problème se déplace aussi beaucoup vers tout l'île de Nouvelle-Guinée, notamment pour l'huile de palme, mais aussi pour l'exploitation de l'or. Et l'idée, justement, c'est de mettre à mal et d'anéantir en fait la culture papoue, si je dis ça de manière très large, avec toutes les ethnies qui vont avec, pour pouvoir acquérir leurs terres et les sous-sols aussi.
Alors, à travers la question des ressources, c'est aussi la question du coup des modes de vie des populations autour. Émilie Lançon, ce que l'on voit, c'est que les petits producteurs expropriés au bénéfice de plantations qui vont faire des plantations d'huile de palme, enfin d'arbres de palmiers, puis ensuite d'exploitation des fruits en vue de faire d'huile de palme, vont se retrouver contraints et n'ayant qu'une solution finalement, c'est ce que nous montre votre documentaire, c'est finalement se faire embaucher par ces plantations-là.
et ouais. travailler à leur service.
Ben souvent, c'est ce qui se passe parce qu'il n'y a ouais. pas énormément de travail. Et dans ces zones-là, l'économie, c'est vraiment l'huile de palme. Donc, si on n'est pas dans ce circuit-là, c'est quand même compliqué de gagner sa vie, surtout quand on a toujours été paysan. Donc, certains se font, en effet, vont se mettre au service de plantations qui ont, quelque part, racheté leur terre, même si ce n'était pas directement leur propre terre.
Alors du coup, il y a une forte concentration et on va voir qu'autour finalement du commerce de l'huile de palme, il va y avoir d'autres commerces qui vont se développer, qui sont totalement connexes. Et ça va être notamment la question des herbicides nécessaires à la culture, en tout cas jugés comme tels.
Qu'est-ce que c'est que ce produit ?
C'est un désherbant.
C'est pour tuer les herbes ?
Oui, c'est pour tuer ces herbes. Elles sont trop proches du palmier.
Vous connaissez le nom du produit ?
Gramoxone. Oui.
Du gramoxone, un puissant désherbant à base de paraquat. Un produit toxique, interdit en France et aux États-Unis, comme dans 36 autres pays, mais pas l'Indonésie. Le paraquat ronge la peau et les ongles. Plus grave, il attaque les poumons, la gorge et le système nerveux. La pulvérisation de paraquat doit se faire équipée de protection. Les jeunes filles que nous croisons ce jour-là n'en portent pas. Nous leur demandons pourquoi. Vous ne portez pas de gants ?
Parfois oui, parfois non. Souvent j'oublie et je n'en mets pas.
Et un masque ?
J'ai un masque, mais je ne le porte pas car il fait tellement chaud que c'est insupportable.
Ça vous arrive d'avoir mal à la poitrine ou du mal à respirer ?
Oui, ça arrive.
Et vous savez que le gramoxone est mauvais pour la santé ? Vous savez que c'est mauvais ? Vous le savez ou pas ?
Oui, on le sait. Oui.
Emmanuel Grunemann, on se retrouve effectivement face à une situation bien connue du capitalisme, à savoir la concentration d'un côté et de l'autre la question de la culture intensive. Quand la demande passe de 15 millions de tonnes en 95 à 60 millions aujourd'hui, il faut faire une culture intensive et ça passe souvent par l'utilisation d'un certain nombre de pesticides.
Complètement.
D'herbicides.
Et le palmier à huile ne déroge pas à cette règle. Et effectivement, c'est très souvent au mépris de toutes les règles sanitaires qui vont avec aussi le droit du travail. En Indonésie, il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent dans les plantations sont des migrants. En fait, il y a eu toute une politique, pareil, à instaurer dès l'ère Suharto de transmigration pour dépeupler Java et aller vers les zones qui étaient vierges, selon les termes de Suharto.
Donc d'où viendraient ces populations ?
Essentiellement de Java.
De Java.
Et d'ailleurs, ça peut aussi expliquer certaines choses, dans le sens où eux ne vont pas avoir un attachement à la terre sur laquelle ils travaillent, puisqu'ils n'y ont pas leurs racines. Donc voir la forêt partir en fumée, c'est pas quelque chose qui va les toucher, alors que des personnes qui y vivent, dont c'était leur propre terre, là, le lien n'est pas du tout le même et la réaction ne va pas du tout être la même. Et en général, ils vont même aller jusqu'à privilégier ces migrants, d'autant plus qu'ils sont plus facilement manipulables, ils sont loin de chez eux, loin de leur famille, on peut plus facilement les pressuriser en termes de bas salaire, et puis de toute façon, si eux réclament quelque chose, on les vire et il y aura toujours 5 autres personnes derrière pour accepter le poste. Et les petits agriculteurs qui justement vont qui sont là, en fait, il y a énormément de petites plantations ou de nurseries, mais qui sont en fait sous l'égide des grands conglomérats. Et ce sont ces grands conglomérats qui fixent les prix. Donc tout ça est un peu biaisé quand on entend « oui, mais la culture du palmier à huile, c'est aussi une véritable économie qui fait vivre tant et tant de milliers
qui crée des emplois,
qui crée
comme
des emplois.
Voilà. On est obligé de prélever sur le fruit de manière manuelle.
Voilà.
Il n'y a pas eu les phénomènes de mécanisation qu'on
exactement.
A pu connaître pour la tomate dont on parlait hier, par exemple.
Pour le coup, c'est vrai, il y a énormément d'emplois créés, mais les conditions de ces emplois sont très très précaires.
Et dangereux, hein, Emily Lanson, c'est ce que vous nous dites dans votre documentaire. Il y a la question du paraquat. Alors, autour du business de l'huile de palme, il y a un business parallèle qui est celui du pesticide. C'est ce que vous nous expliquez justement en Indonésie. Et le paraquat qui, en réalité, est utilisé comme un herbicide.
Oui, tout à fait.
Sur les forêts.
Et alors, ce que j'avais découvert, c'est qu'en fait, les fabricants, alors là, en l'occurrence, il y en avait un qui s'appelle Syngenta, qui est vraiment un poids lourd du secteur, qui fabrique un produit qu'on appelle le Gramoxone, qui contient du paraquat. Il met la pression sur les petits revendeurs qui sont dans les villes alentours pour qu'ils vendent le plus possible de ce désherbant. Et alors, avec des moyens vraiment très basiques, mais visiblement assez efficaces.
En faisant des cadeaux, hein.
Voilà, ils promettent, par exemple, j'en avais rencontré un qui était très fier de me dire que l'année dernière, il avait vendu, alors je me souviens plus du volume, mais X tonnes de Gramoxone, et donc il avait gagné une mobilette, et il visait, alors il y avait des points, il m'a montré, il y avait un petit catalogue édité par Syngenta, et s'il obtenait, je sais plus, 20 000 points, là il y avait une belle tour Eiffel, il allait gagner le voyage en France, et donc il était hyper motivé, il démarchait les plantations pour vendre toujours plus d'herbicides. Et ce qu'il faut préciser, c'est que la plantation dans laquelle je suis allée tourner, c'est une plantation qui, normalement, était censée faire de l'huile de palme durable.
Alors
ça,
il faut que vous expliquiez ce que c'est.
Voilà, engagée à ne pas, justement, utiliser ce type qui logiquement ne devrait pas utiliser ce type de produit. Or justement le problème c'est qu'en fait elle s'y était pas engagée. Il y a un groupement qui s'appelle le groupement RSPO qui existe depuis 2004, qui regroupe des entreprises et aussi des planteurs
qui est né de ces critiques faites autour de l'huile de palme,
ils ont bien compris que ça posait problème et puis ils ont pas non plus envie de dévaster leur pays, mais bon tout ça c'est, il y a beaucoup de luttes d'influence au sein de cette question est compliqué. Et donc il y a ce groupement qui a été créé, RSPO, pour tenter de trouver une solution à la surproduction, à la production intensive d'huile de palme, avec au départ des intentions tout à fait louables, qui étaient de ne pas déforester et en gros offrir des conditions de travail décentes aux gens. Donc ça sur le papier c'est extraordinaire, c'est très bien, sauf que dans les faits ça se passe pas vraiment comme ça, parce que d'abord RSPO, qui représente quand même 20% de l'huile de palme produite dans le monde, donc c'est pas rien. RSPO, ils sont engagés, certes, à ne pas déforester, mais uniquement la forêt primaire. Or, c'est quand même un problème de déforester la forêt secondaire ou les tourbières.
Alors là, on a une affaire avec ces histoires de certification et de tentatives d'initiative d'avoir une huile de palme durable. On a en réalité une grande opération de greenwashing, Emmanuel Grunemann. Et là, on arrive sur des questions politiques. Et il y en a plusieurs concernant l'huile de palme.
Alors c'est vrai que oui, cette question des labels et des certificats est assez épineuse. Et alors oui, il y a cette tentative avec la RSPO, qui est la table ronde pour l'huile de palme durable. Et en fait, on s'aperçoit qu'au final, pour l'instant, on est encore très loin d'avoir une filière écologiquement, éthiquement durable, et que tout ce qu'on peut avoir comme label ou pseudo-label relève du greenwashing. Le plus bel exemple étant une certification qui s'appelle Green Palm, qu'on voit régulièrement apposée sur des paquets de biscuits notamment, où là en fait vous donnez un chèque à la RSPO qui va contribuer à la protection de certaines forêts, et en échange vous pouvez, quelles que soient vos pratiques, dire que vous contribuez en fait à l'huile de palme durable, même si vous n'en faites absolument pas. Mais vous avez donné vous avez votre bonne conscience, vous avez donné un chèque. Et le problème de la RSPO aussi, c'est que donc c'est une table ronde, mais qu'il faut s'acquitter d'un droit d'entrée qui est relativement élevé, même pour les petits. Et que quand on regarde qui siège, la grosse part du gâteau, ce sont les grosses entreprises, les banques, les raffineries et les ONG, les petits planteurs ont très très peu de poids, et les critères ne sont pas satisfaisants, à tel point que certaines grosses multinationales qui, sous la pression des consommateurs, ont voulu commencer un peu contraint et forcé quand même de faire quelque chose pour aller vers une huile de palme un peu plus durable, veulent justement, considèrent que ce ne sont pas des critères suffisants.
Alors, il y a eu effectivement cette idée de penser que c'était peut-être des moyens de façade, en réalité. Il y a eu des choix politiques, ça a été un débat politique. L'huile de palme, ça continue à revenir régulièrement dans les débats, avec des affrontements entre, justement, ce que l'on peut imaginer, des discussions au Parlement et au Sénat. Et il y a eu notamment cette fameuse taxe Nutella, revenue sous forme d'amendement Nutella. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, Emmanuel Grimman?
Oui, c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit. C'était peut-être pas la meilleure, c'était peut-être pas tout à fait délicat, ou en tout cas ça a fait soulever tous les boucliers de la part des agro-industriels. Et donc l'idée, c'était de surtaxer en fait les importations européennes d'huile de palme. Et pourquoi Nutella? Parce que dans le Nutella, on a grosso modo 50% de sucre et 20% d'huile de palme. Et donc c'était devenu l'emblème de ces importations d'huile de palme et de ce produit, avec toutes les conséquences environnementales, sociales. On n'en parle pas, mais aussi climatique, puisque qui dit déforestation, feux de forêt, dit émissions de gaz à effet de serre, avec une contribution extrêmement importante au réchauffement climatique. Et donc du coup, ça a cristallisé cette taxe Nutella, toutes ces questions. Et puis finalement, ça a été un peu mis de côté. Mais il y avait une réelle... On sent que depuis quelques années, ce produit, enfin l'huile de palme de manière générale, et l'huile de palmiste, si on met tout ensemble, suscite un grand nombre de débats, de controverses, de discussions, parce que justement, il y a tous ces problèmes environnementaux, sociaux, climatiques qui se cachent derrière.
Alors, Émilie Lançon, on voit qu'effectivement, il y a eu l'idée de faire une taxe pour que les industriels se détournent de l'huile de palme, peut-être utilisent de nouvelles techniques. D'ailleurs, vous en donnez l'exemple dans le documentaire, hein, l'utilisation d'autres huiles. Que l'huile de palme.
Alors oui, comme on s'intéressait beaucoup au Nutella à l'époque, j'avais rencontré, et qu'un des arguments de Nutella, c'était de dire oui, mais si on retire l'huile de palme, notre Nutella ne sera jamais aussi onctueux, aussi délicieux. Et bon, donc on était allé voir comment faisait, c'était vraiment le début des pâtes à tartiner sans huile de palme. On était allé voir un chocolatier qui n'en utilisait pas, il utilisait de l'huile de colza. Alors sa pâte à tartiner était délicieuse. Mais c'est vrai qu'elle coûtait deux fois plus cher que le Nutella, en fait.
Donc derrière se posait la question de la critique sociale, hein, qui a été mise en avant autour du Nutella. Et c'est aussi l'une des images favorables de l'huile de palme que de mettre à bas coût à disposition du grand public, en réalité, de nourrir un peu le monde.
Complètement. Et c'est vrai que c'est devenu un peu le symbole. Alors, pour un peu contrebalancer, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, justement, parce qu'ils ont été extrêmement critiqués, et ça, c'est le côté très positif de prendre ce produit phare que tout le monde connaît, et parce qu'ils ont été extrêmement critiqués, aujourd'hui, Ferrero est parmi ceux qui se bougent le plus pour essayer de... je dis pas que ils sont arrivés au but, mais en tout cas, je sais que récemment, ils ont été notés par Greenpeace comme étant l'entreprise qui aujourd'hui a le plus de transparence quant à son circuit d'approvisionnement d'huile de palme et qui tend vers, qui essaye de chercher en tout cas des solutions pour avoir une huile de palme durable éthiquement et socialement. Le problème avec l'huile de palme, contrairement au bois, c'est le problème de séparer les deux circuits. Vous avez un tronc d'arbre qui est exploité dans une forêt où toutes les conditions éthiques, sociales, environnementales sont réunies. C'est facile de le différencier d'un tronc d'arbre qui a été exploité illégalement. Les deux entités sont séparées. L'huile de palme, elle est mélangée. Et en fait, il faut deux circuits séparés. Et c'est là où le bât blesse, en fait, c'est que c'est très coûteux d'avoir deux circuits. Un circuit pour l'huile de palme durable et un autre. Et du coup, pour l'instant, on en est encore assez loin, voire
alors,
très loin.
L'idée, c'était aussi de replanter. Il y a des initiatives dans ce sens-là?
Alors oui, il y a aussi ce genre de projet. Alors le problème, c'est que ça prend du temps. On ne sait pas refaire une forêt tropicale. Donc du coup, ce n'est pas non plus la solution. En fait, la solution qui serait et qui a été proposée tout un tas de fois par de nombreuses organisations, c'est d'utiliser les terres agricoles dégradées qui sont nombreuses et qui permettraient de continuer à exploiter le palmier sans avoir le coût de la déforestation. Et c'est ce vers quoi certains aimeraient se diriger, mais pour l'instant c'est encore comme il y a les avantages de la déforestation comme on l'évoquait au début, pour l'instant on n'en est pas là.
Et on en est aux nouvelles de l'écho. Bonjour Arjun Andrad.
Bonjour à tous.
Alors vous allez nous parler aujourd'hui des palmes de l'énergie renouvelable.
Exactement. Selon un rapport publié par l'Agence internationale des énergies renouvelables qui a son siège à Abu Dhabi, on apprend que la France est le troisième employeur européen dans le secteur des énergies vertes avec plus de 100 000 emplois dans cette filière. En tête de ce classement, on retrouve l'Allemagne et l'Angleterre. On apprend également que l'on a dépassé la barre des 10 millions d'emplois dans le monde contre 7 en 2012. Chine, Brésil, États-Unis, Allemagne et Japon, en tête de ce classement, totalisent près de 70% des postes du secteur. Un bond sans précédent expliqué selon le rapport par la baisse des coûts et l'adoption de politiques publiques favorables qui ont stimulé l'investissement et l'emploi. Au niveau européen, les secteurs de l'éolien et du photovoltaïque ont ainsi plus que doublé leurs effectifs en 6 ans. Mais les deux secteurs les plus importants restent la biomasse et la production d'agrocarburants qui totalisent près des 2/3 des emplois en Europe.
Il faut dire qu'ils bénéficient d'un soutien croissant du politique.
Oui, l'Union européenne a même fait du développement de ces deux secteurs une de ses priorités dans le cadre de sa stratégie énergie-climat. La Commission avait ainsi fixé un objectif de 10% d'agrocarburants utilisés dans le secteur des transports. Et si l'idée d'une alternative aux hydrocarbures semble bonne sur le papier, cet objectif est en réalité néfaste pour l'environnement puisqu'il incite à la production de biocarburants à partir d'huile de palme dont on connaît les ravages. Cet objectif a donc suscité la colère des associations de protection de l'environnement et d'un certain nombre d'États européens, poussant la Commission à fixer un plafond à 7% d'agrocarburants de première génération, à savoir les carburants issus directement de la transformation d'huile végétale et non d'huile résiduelle ou usée. Plafond que la Commission envisage d'ailleurs encore de baisser.
Mais en attendant, le recours à l'huile de palme continue de se développer.
Oui, on vient d'ailleurs d'apprendre que Total confirmait son intention de recourir massivement à cette matière première avec la reconversion de son site industriel de la Med. L'objectif du géant français des hydrocarbures est en effet de produire 500 000 tonnes de biodiesel par an. Pour ce faire, Total devra traiter 650 000 tonnes d'huile végétale, dont 100 000 issues d'un dérivé de l'huile de palme. Le pétrolier met l'accent sur l'usage des huiles durables et usagées, mais il ne dispose pas des structures pour traiter une telle quantité de matières premières. Or, l'huile de palme est la seule à ne pas nécessiter de pré-traitement avant sa transformation, ce qui rend son usage plus facile et moins coûteux.
On peut donc imaginer que l'objectif est d'augmenter graduellement l'exploitation de l'huile de palme.
Oui, cela semble même tranché. Selon un délégué syndical de la Med, cité par Le Monde, les représentants de Total ont prévenu « Le site ne fonctionnera pas s'il y a moins de 60% d'huile de palme. En deçà, ils fermeront le site. Le message est donc très clair. » Il faut dire que cette décision se place dans un contexte d'augmentation massive de l'huile de palme dans la production d'agrocarburants en Europe. Entre 2010 et 2014, la demande a ainsi augmenté de 600%, plaçant l'Europe au deuxième rang des importateurs au niveau mondial. Prenant la parole ce matin pour la première fois sur le sujet, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a appelé Total à réduire au maximum l'utilisation d'huile de palme, ajoutant qu'il ne pouvait leur demander d'y renoncer après les investissements et les efforts consentis par l'entreprise. Gageons donc que nous ne sommes pas prêts d'arrêter de rouler à la palme.
Polo et Pan Canopé. Merci Émilie Lançon et Emmanuel Grunemann d'être venus nous parler d'huile de palme aujourd'hui. Émilie Lançon, votre documentaire s'intitule « Palme, une huile qui fait tache ». Il est disponible sur le site de Magnéto Presse et vous venez par ailleurs de terminer un film sur un service secret sous Vichy pour RMC Découverte, qu'on découvrira bientôt, nous aussi. Quant à vous, Emmanuel Grunemann, deux livres sur le sujet, un fléau si rentable, Vérité et mensonge sur l'huile de palme chez Calman Lévy et Devenir consommateur, l'huile de palme que vous venez de publier également, et cette fois-ci chez Actes Sud. Vous pouvez réécouter nos émissions et vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho sur notre site franceculture.fr. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. On se retrouve demain pour parler, pour le débat de la semaine qui concernera les alternatives productives.
Un retour aux sources, vie sans artifice.